Bertrand Perrin, bonjour.
Bonjour.
Secrétaire du Parti communiste français dans les Alpes-de-Haute-Provence. Quel est véritablement l'état de la NUPES aujourd'hui? Est-ce qu'elle ne prend pas davantage des airs d'annexe de la France insoumise plutôt que d'une véritable union des gauches?
Non, je pense pas. Vous savez, dans notre département, on a une histoire du rassemblement de la gauche. Vous en souvenez, on était rassemblés pour les élections départementales, pour les régionales, pour les municipales. Il y a un dialogue pérenne et qui existe entre nous et puis qui se poursuit au-delà de ce qu'on a vécu pour les élections législatives, de ce rassemblement pour les élections législatives. Nous, ce qu'on souhaite, c'est une NUPES qui soit un espace de dialogue, un fil de discussion et de liaison entre les organisations de la gauche, qui ne soit pas ossifié, si on n'a pas vocation à créer un parti qui supplante les autres, une métastructure qui alourdirait le processus, puis quelque chose d'ouvert, et puis surtout d'aller vers son élargissement, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on a besoin de construire des majorités populaires pour répondre aux défis qui s'offrent à nous aujourd'hui, et puis pour contrer la politique du gouvernement qui est décriée par l'ensemble des Françaises et des Français. Donc on a besoin d'aller vers un élargissement, vers une construction avec le tissu associatif, le tissu syndical, et puis le reste des forces de la gauche qui ne nous ont pas encore rejoints. Je crois que c'est en bonne voie si chacune et chacun y met du sien. Voilà.
Dans les Alpes-de-Provence, le département est à droite, le conseil départemental. Il y a un député NUPES, hein, Léo Valter, un autre Rassemblement National. La boussole politique dans le 04 n'est pas un peu perdue?
Je pense qu'on a vécu une élection législative particulière avec un président de la République qui, pour la première fois, n'obtient pas de majorité à l'issue des élections présidentielles. Je soutiens l'action de Léo Valter, qui est un député qui fait le travail, qui a rencontre des bases alpins et puis qui siège surtout, contrairement à son homologue à l'Assemblée nationale. Il va falloir travailler pour aller à la rencontre des citoyens, pour comprendre à un moment donné ce qui a fait défaut dans ces élections, dans la période qu'on a vécue, et surtout quelles sont leurs attentes pour l'avenir du territoire et puis l'avenir de la France, parce que quand on discute, vous m'évoquez les deux parlementaires, donc c'est de la France dont il est question. Donc il va falloir aller à leur rencontre, continuer ce qu'on a su faire jusqu'à présent, mais l'amplifiant, voilà.
L'un des fers de lance de la gauche est la taxation des super profits. Le budget adopté la semaine dernière au sein de l'Assemblée nationale comprend justement un volet de taxation sous la forme d'une contribution. Ça s'appliquera aux profits exceptionnels des producteurs d'énergie en Europe. 7 milliards d'euros seront récupérés. C'est un bon signal finalement?
Non, c'est pas très sincèrement. Enfin, c'est pas à la hauteur de l'enjeu. Vous voyez bien les super profits qui sont réalisés. Moi, j'appelle ça la compensation sur les profiteurs de crise quelque part. Donc, on voit bien l'augmentation conséquente du chiffre d'affaires de certaines entreprises, notamment de l'énergie. On voit bien qu'il y a des revendications qui s'ouvrent et il y a un pas de plus à franchir clairement si on veut sortir le pays de la difficulté dans laquelle on est.
Et c'est quoi ce pas de plus justement? Si pour vous ce n'est pas suffisant, c'était quoi le bon signal?
Le bon signal, ça aurait été de créer par exemple sur la question de l'énergie un pôle public de l'énergie. Ça aurait été d'aller plus loin par rapport à des amendements qui ont été déposés, de retenir tous les amendements qui ont été déposés. Parce que il ne nous aura pas échappé que lors du projet de loi, du PLF, pardon, la plupart des amendements ont été mis en difficulté. En fait, il y a une majorité de parlementaires qui sont exprimés pour faire des amendements. Ça veut dire une majorité absolue, ça veut dire des députés, bien sûr, de l'opposition qui l'ont voté, mais ça veut dire aussi des députés de la majorité. Or, le gouvernement a fait le choix de ne pas reprendre tous les amendements. Donc, ça veut dire qu'il y a des projets qui ne sont pas poursuivis, et ça veut dire qu'il y a un manque de respect de la démocratie dans ce pays, clairement. Il aurait fallu aller plus loin, il aurait fallu discuter de l'évasion fiscale, de tous ces sujets-là qui préoccupent les Françaises et les Français pour aller plus loin.
Tous les amendements ont été discutés avant que Elisabeth Borne estime qu'il fallait utiliser le 49-3, mais en tout cas, la discussion était là.
Oui, la discussion.
Vous ne pouvez pas demander à une majorité Renaissance de voter les textes de la NUPES?
On peut demander à une majorité Renaissance de respecter les amendements qui ont été majoritairement votés par le Parlement. Ça me semble évident.
Vous défendez aujourd'hui encore le SMIC à 2000 euros brut, 1600 euros net. Comment vous portez ce message dans les Alpes d'Haute-Provence auprès des très petites entreprises ou des petites et moyennes entreprises qui aujourd'hui sont en difficulté parce qu'elles peinent à rembourser les PGE, ces fameux prêts qui ont été engagés pendant le Covid?
Alors écoutez, avec un argument très simple, c'est celui de l'histoire et de l'expérience. Depuis 40 ans, on mène une politique dite de ruissellement. Hein. Elle s'est appelée différemment selon les époques, selon les présidents de la République. Or, l'OCDE explique clairement, dans différents rapports, hein, c'est assez récurrent, qu'il n'existe pas de preuves empiriques de la réalité de ce processus. Par contre, on sait qu'il y a une politique, relancer la politique de la demande, on sait que ça fonctionne. L'histoire l'a montré, l'expérience le prouve. Donc à partir de là, on sait qu'augmenter les salaires, ça permet de relancer la machine économique, ça permet d'augmenter le cahier de commandes des petites entreprises, des artisans, et ça permet du coup d'augmenter leur chiffre d'affaires et de créer de l'emploi sur notre territoire. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la solution, c'est de répondre à la fois à l'exigence de bien vivre et à l'exigence de pouvoir d'achat de nos concitoyens, sur laquelle on n'est pas quitte. Hein. Le gouvernement n'a pas encore répondu globalement à cette attente-là de la part des Françaises et des Français. Et puis ça permet aussi de relancer l'économie par la demande. Et ça, c'est un élément essentiel de l'économie de proximité, de l'économie non délocalisable qui existe sur nos territoires.
Mais là, on parle du SMIC et les salaires de seconde ligne, c'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui, par exemple, à 1600 euros net, on les augmente à combien ? C'est là où je vous demande comment les entreprises peuvent avoir les reins assez solides pour éponger tout ça.
Simplement, si leurs carnets de commandes sont remplis parce qu'il y a plus de demandes, ils vont augmenter leur chiffre d'affaires, ils vont augmenter leur capacité à mieux rémunérer leurs salariés. Et puis, on sait aussi que des salariés mieux rémunérés, c'est des salariés plus productifs. Hein, donc, ça, tout ça se compense, en fait. C'est un grand tout. Il faut augmenter aujourd'hui les salaires pour pouvoir... On sait bien qu'on ne vit pas de façon colossale avec 1600 euros, loin de là aujourd'hui, face à l'explosion des prix, face à l'explosion de l'alimentaire, face à l'explosion de l'énergie. Et donc il y a une demande de dignité humaine de la part des salariés, et puis de réalité économique dans laquelle on vit.
Et il y a une autre réalité, c'est qu'il y a des tensions aussi dans beaucoup de secteurs aujourd'hui. Il y a quelques mois en arrière, on parlait de l'hôtellerie, de la restauration, qui n'avait plus de main d'œuvre. Là aujourd'hui, ça gagne tous les secteurs, les gens n'ont plus envie de travailler, Bertrand Perrin.
C'est qu'ils n'ont plus envie de travailler pour les salaires de misère, c'est la réalité. Aujourd'hui, on est dans des emplois qui sont contraints, on a une perte de sens au travail. On voit bien qu'il y a un défi qui s'offre à nous, sociétal, qui est de retrouver du sens, le sens d'un travail qui soit émancipateur, qui soit rémunérateur, qui permette à toutes et tous de vivre dignement du fruit de leur labeur.
Rapidement, Bertrand Perrin, la santé dans les Alpes-de-Provence est en difficulté. Les urgences de Manosque ont une nouvelle fois fermé la nuit. On parle aussi du mouvement de grève du côté de la clinique Toutes Or à Manosque. Est-ce qu'à un moment, il va falloir parler très concrètement et très sincèrement de l'attractivité du territoire pour le milieu médical ?
Je crois qu'il faut parler aujourd'hui de la réalité qui est celle d'un territoire qui est dévasté sur le point de vue de la santé. On travaille énormément ce sujet avec des collectifs citoyens, avec les organisations syndicales, avec des associations. Donc, on est très au fait de ce sujet-là. Et il va falloir effectivement évoquer une réalité qui est celle de médecins qui viennent s'installer dans nos campagnes, dans les territoires sous-dotés, dans les déserts médicaux, parce que ça peut plus durer comme ça. Aujourd'hui, ce sont des vies humaines qui sont perdues par l'éloignement d'un manque de réa, par exemple, à Manosque, sur l'hôpital de Manosque, vous parlez des nuits de fermeture, mais il y a aussi l'absence de la réa. Il y a beaucoup de l'absence de médecins, de généralistes, hein, de médecins de territoire. Donc, il va falloir créer les conditions pour que des gens viennent s'installer. Il y a des propositions qui ont été faites, diverses, notamment, par exemple, des gardes par les médecins généralistes à tour de rôle. Ça représente une semaine de garde dans l'année. L'installation, par exemple, des internes de médecine qui viendraient s'installer à l'issue de leurs études sur les territoires sous-dotés. Voilà, il va falloir creuser ces sujets-là parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le creux de la vague, il est devant nous. Hein. On va affronter le plus dur dans les années à venir parce que le numerus clausus fait que beaucoup de médecins vont partir en retraite dans quelques temps. Là. Et donc, il faut se pencher sur ces enjeux-là. Pardon, je vous coupe la parole.
Merci beaucoup Bertrand Perrin d'avoir été avec nous ce matin, secrétaire du Parti communiste français dans les Alpes de Haute-Provence.